2017, on s'en souvient, fut une année assez médiocre pour le cinéma français. Pratiquement aucun film dans notre classement international. Cette année, pourtant, il y a eu au moins 3, 4 films, voire plus, importants produits ici. On va essayer d'en parler. Justin, pour toi, est-ce que c'était une bonne année pour le cinéma français?
Ben oui, il y a eu donc des confirmations de cinéastes qu'on suit depuis plusieurs années, comme Abdelatif Kechiche avec Make to My Love. Il y a aussi l'émergence de cinéastes comme Bertrand Mandicot avec Les Garçons Sauvages. Et puis, c'est une sorte de petite école visuelle
Avec Yann
thématique
Gonzalez.
qui se prolonge avec Yann Gonzalez avec Un couteau dans le cœur, que j'aime bien, mais que je trouve un petit peu
Je
moins
dirais.
captivant
Moi aussi, je dirais le contraire,
Les
comme
Garçons
Gaël, mais.
Sauvages.
Non, c'est Mandeco qui poursuit Yann Gonzalez, mais pour le reste,
Non,
vas-y.
en tout cas, je parle en termes de longs métrages sortis au
Vas-y, cute,
cinéma.
hein.
C'est déjà son deuxième pour Yann Gonzalez, si je ne me trompe pas.
Oui, son deuxième long
Et c'est le
métrage,
premier de
effectivement.
Mandico, donc c'est pour ça que je disais ça. En tout cas, voilà, au niveau, il y a une sorte d'école formelle, thématique.
Et sachant que
En tout cas,
Mandico
c'est pas
joue
l'activité qu'il
dans
aime.
Un couteau dans le cœur,
Oui, effectivement, oui.
ils sont
Une
devenus
des
très
meilleures
très
scènes en
amis.
plus, d'ailleurs, la plus
C'est
belle
un
scène.
culte.
Pourquoi il y a une sorte d'école, un peu de cinéma fantastique, une proposition de cinéma fantastique.
Poétique.
Politique.
Je te reprends à chaque fois.
C'est une espèce de patchwork.
Oui.
Patchwork.
Patchwork
de collage.
Ouais, c'est ça, c'est collage, comme tu dis.
Donc, une sorte d'école qu'on sent à travers ces deux cinéastes et puis tous ceux qui gravitent autour. Il y a eu aussi, alors, bon, j'ai pas apprécié le film, encore, j'ai pas apprécié, mais c'est le plus regardable depuis longtemps pour moi, mais Climax, malgré tout.
Ah, c'est fabuleux, Climax.
C'est fabuleux. Faut prendre plus de drogue, hein,
Tu reprends un verre de sangria,
peut-être? Non, mais donc il y a quand même pas mal 3-4 films qui se dégagent.
Il y a No Bataille, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est bien.
Jusqu'à la garde aussi, il faut pas l'oublier.
Oui,
Jusqu'à la
effectivement,
garde.
C'est un premier film
Ah, mais
très impressionnant aussi.
Et à la
Ah
télé,
bon?
il y a eu le Bruno Dumont de l'année.
Oui.
Et puis,
ah oui,
Coin Coin,
Tic Tac.
Moi j'aimerais bien rajouter un film que
Gaël,
enfin, Coin Coin.
Peu de personnes, dont personne parle, enfin pas assez en tout cas. Qui est Sophie Antipolis de
Ah oui,
Gilles Vernier.
Gilles Vernier.
Faut que je le vois, faut que je le vois.
Et qui est pour moi un des films qui évoque le plus l'ambiance actuelle qui règne sur le territoire. Et d'ailleurs, ça parle de territoire. Donc, c'est un film un peu choral avec plusieurs histoires qui se passent un peu en même temps. Et sur le côté réchauffement climatique, le côté montée du fascisme, et également aussi toute une population un peu perdue, dont certains se réfugient dans le conspirationnisme.
Les jeunes.
Pas forcément les jeunes.
La jeunesse.
J'ai beaucoup aimé Mercurial,
Ouais.
mais j'ai fou que je vois
Et il est dans la même veine
On va faire quoi
de. Enfin,
maintenant?
c'est quelqu'un qui vient du documentaire. Et qui là essaye de trouver une forme très particulière en filmant, en posant sa caméra, en filmant ce qu'il voit, mais en ajoutant quelque chose, en utilisant la lumière, en utilisant un élément du décor qui fait que ce qu'il filme, ce qu'est la réalité, en fait, devient complètement fantastique, complètement. Et Sophia Antipolis, c'est un film complètement apocalyptique. Et c'est assez impressionnant, quoi.
Quand tu parles de ce film-là, pardon,
C'est
excuse-moi Gaël, on a l'impression que tu parles aussi du cinéma de Yann Gonzalez et du réalisateur des
Bertrand
Garçons Sauvages.
Mandicot.
C'est-à-dire que
Alors que c'est différent quand on les
Oui. Mandico et Yann Gonzalez, dont les cinémas sont assez proches, sont un cinéma complètement de l'artifice. Alors effectivement,
Pas si proche.
Gonzalez, là, avec un couteau dans un cœur, a essayé de faire entrer en fait son univers complètement fictionnel dans une histoire inspirée d'une productrice de films porno. Et un couteau dans un cœur est un peu plus dans le réel que l'étaient les rencontres d'après-midi.
Ouais, que dans le réel.
Mais Ouais, un peu plus dans le réel. C'est pas que le réel. Mais alors que Virgile Vernier, lui, son truc, c'est de filmer le réel, mais en ajoutant.
Une parcelle de fiction.
Une parcelle de fiction, quoi. C'est très, très particulier. Et effectivement, Mercurial finissait en utilisant la lumière, les jeux d'ombre. Par un film de monstres où les grues devenaient des monstres qui détruisaient tout. Et là, en surexposant en fait, la pellicule, il filme en fait, la fin du monde. En fait. C'est très, très, très particulier.
On est bien là.
Aussi, la transition avec Lars von Trier pour
aussi, ça Virgile Vernier, il a une esthétique
Oui. Mais enfin, je maîtrise pas assez ce sujet-là. Enfin, je veux pas dire plus de bêtises.
Mais du coup, dans Mercurial, il l'utilisait dans.
Okay, enfin, puis j'ai pas vu ses films, mais Braque, il paraît qu'il a fait des très beaux films cette année.
Encore oui, t'as vu des films
C'est.
L'île au trésor.
L'île au trésor. Ouais. L'île au trésor est magnifique. Un super documentaire fictionnalisé.
C'est ça. Ça reste un film, mais c'est entre les deux.
C'est très particulier.
Mais en même temps, ce gars-là, quand on voit ce qu'il a fait avec les courts-métrages qu'il a pu. Ouais. C'est juste un cinéma passionnant qui lui vraiment titille le réel, hein, de manière très sensuelle.
Il a fait deux films, Guillaume Braque, cette année.
Et il a fait.
L'autre.
Très bon, Guillaume Braque, c'est très bon. Très bon.
Je l'ai vu en plus son film là en deux parties. Oui.
Mais le cinéma français.
C'est moins intéressant en fait.
Le cinéma français dans son ensemble, enfin, on a tendance à. Je veux dire que. Comment. Il y a un groupe. Il y a un groupe comme ça d'individus qui sont malheureusement assez. Qui sont assez minoritaires, mais qui.
Minoritaires, tu parles en termes d'entrée ou de notoriété
De notoriété plutôt. Ouais. Oh, j'ai envie de te dire même peut-être d'entrée aussi.
Oui, aussi d'entrée aussi.
Les deux malheureusement se rejoignent, je crois. Mais cette année, en matière de cinéma, quand on parle de cinéma français, que je parle de ce groupe, qui eux-mêmes ne sont pas, ils ne se sentent pas concernés. C'est moi qui le dis. Je dis voilà.
Apparemment, Nico Gonzalez et le couple, ils sont vraiment un groupe.
D'accord.
Eux, ils ont une tribune dans le cahier en tant que groupe.
D'accord. Mais et après, il y a. J'ai l'impression que d'année en année, ce genre d'expérimentation devient de plus en plus minoritaire. Et paradoxalement, de plus en plus fort. C'est ça que je trouve que il est proposé. Yann Gonzalez, son premier long métrage de fiction, je n'ai pas du tout adhéré. Enfin, j'étais vraiment contre. Mais vraiment, je n'y arrivais pas. Et je trouve que là, c'est juste extraordinaire ce qu'il propose. Ce qui ne veut pas dire forcément que ce film, je le trouve magnifique. Non, il y a des moments où je recule, des moments où j'avance, mais je trouve que c'est juste impressionnant. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire, voilà, je vais tenter quelque chose. Comme le réalisateur de Garçon Sauvage, qui m'a vraiment époustouflé. Il y a comme ça certains cinéastes qui, en cette manière, j'ai l'impression qu'ils font un film comme si c'était leur dernier.
Mais
en même temps, ils sont de plus en plus minoritaires, de par le financement, de par plein de choses. Mais plus ils sont minoritaires, plus ils sont de plus en plus forts. Les propositions de certains cinéastes aujourd'hui en France sont juste passionnantes. C'est
intéressant
très, très
ce que
fort.
Tu dis sur, par exemple, moi j'adhère complètement à l'univers de Gonzalez dans son dernier film. Un peu moins à celle de Gaspard Noé, par exemple, dans Climax. Mais j'y retrouve ce que tu dis, c'est-à-dire que. Il fait une proposition de cinéma auquel on peut adhérer, à laquelle on peut adhérer ou pas, mais c'est quand même cinématographiquement extrêmement intéressant, stimulant. Je ne sais pas si ça a marché, d'ailleurs, si le film a marché. Et ce qui est intéressant dans le cas de Gaspard Noé, c'est qu'il revendique cette expérience de cinéma français au début du film. Il dit voilà ce qu'est un film français. Et ensuite, il fait son film avec son plan sur le drapeau français. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça, quand on pense au cinéma français, sont des propositions esthétiques aussi assez fortes
aussi
cette année qu'on a pu avoir, pourtant sont marginales, parce que c'est pas ce qui marche en salle.
Je suis d'accord avec toi.
C'est parce que les gens dont on parlait dans un podcast précédent vont vraiment voir en salle, mais par contre à l'international...
Les voir les tuches,
mais c'est assez marginal, mais ça reste énormément accessible si on prend le temps de la regarder. Il y a un film d'horreur qui est sorti, je crois que c'est français. Français. Je ne sais pas si c'est catalogué français, je ne sais pas, je ne sais plus.
En début d'année
La nuit a dévoré le jour.
Oui, le monde.
Quand même.
C'est son frère qui a écrit le, c'est son frère qui a écrit le livre qui a inspiré le film.
Bye. On parle de Monsieur Martin. Oui.
Bah, c'est juste génial.
Voilà.
C'est
un peu différent du bouquin de mon frère.
Alors, je suis un peu pris de court. J'ai un peu pris de court parce
du
que.
Du coup, c'était pas du copinage.
Je ne savais pas. Ça me donne envie de lire le livre, en tout cas.
On peut dire son nom, hein.
Mais j'ai
trouvé. Martin Page,
voilà. Mais j'ai trouvé que. Cela faisait. Comment te dire ça, Victor? Ouais, j'étais fier d'être dans cette salle de cinéma, devant ce film d'horreur, et de dire putain, ça vient d'ici, et c'est juste génial. J'ai adoré.
Il y a même Stephen King qui a adoré.
C'est même tout. Ce film est passionnant de bout en bout.
Mais c'est vrai que mon frère a écrit le bouquin avec. Ouais, j'ai parlé de mon frère.
Non, mais tu peux y aller. Alors, c'est moi qui pose la question.
Non, mais. Mon frère a écrit ce bouquin aussi.
En quelle année? Oui, en quelle année il a écrit ce bouquin?
Waouh, je sais plus quoi.
Je sais pas, j'apprends que c'était le film. Enfin, je savais pas du tout.
Alors, je me souviens plus du tout de l'année.
Non, mais ça date d'il y a longtemps ou...
Ouais, quand même. D'accord. Enfin, ça commence maintenant à faire. Hein.
et ton frère, quand il a vu le film, pardon de cette indiscrétion, mais quand il voit le film, qu'est-ce qu'il en pense?
Bah, il aime bien. En fait, en plus maintenant, il est assez pote avec Dominique Rocher. Hein. Ouais, ils sont parce qu'en fait, Dominique Rocher, enfin, en fait, il était intéressé par le bouquin de mon frère, voilà, de l'adapter.
Ton frère s'appelle comment?
Pardon?
Martin Page.
Oui, Martin Page.
Mais voilà. Du coup, il a travaillé sur le projet du film ou pas?
Eh bien, Dominique Rocher lui a demandé si c'était possible tout ça. Ben, mon frère a dit, c'est ton boulot, enfin, tu fais ce D'accord. que tu veux, donc. Si t'aimes bien mon bouquin, j'en suis content, mais toi tu fais ce que tu veux et j'ai pas de droit de regard sur ce que tu fais ce que tu veux. Quoi.
Ouais, c'est bien ça.
C'est bien. Ouais.
C'est balèze en fait. Ouais.
Et c'est ce qu'il a essayé de faire et apparemment ça a plu.
Donc, ça lui a plu et toi ça t'a plu toi le film?
Alors moi ça m'a plu. Alors moi j'étais assez. Enfin voilà, c'est une expérience personnelle, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que en plus d'être un bouquin qui est inspiré des lectures de mon frère par rapport à Stephen King, enfin par rapport au fait que on a été bercé par Stephen King dans notre enfance, et que Stephen King a été une des figures qui a donné envie d'écrire. C'est aussi le bouquin le plus personnel de mon frère, en fait, où il parle beaucoup plus de lui que ses autres bouquins. Et effectivement, moi, quand j'ai lu son livre, j'ai vu mon frère, quoi. Et quand j'ai vu l'adaptation de Dominique Rocher, c'était un peu perturbant parce que. Je suis très content maintenant. J'ai rencontré une fille qui a fait des études en Norvège. Et donc je sais que maintenant on dit Andrés Danielsson Lie.
Voilà. Oui, c'est bien ça.
Ouais, je ne savais jamais comment dire. Donc c'est Andrés Danielsson Lie. Et qui ressemble pas du tout à mon frère, quoi. mais c'est juste que sans avoir jamais rencontré mon frère, il a saisi probablement l'essence de ce qu'avait écrit mon frère. Et surtout au début, il y a énormément de choses que j'ai rencontrées dans le visage d'Andrés Danielsson Lie. Que mon frère, enfin les expressions que mon frère a, et ben il les a reproduites, quoi. C'est très bizarre, quoi. Sinon, c'est voilà.
Mais en tout cas, moi, je ne savais rien de ce que tu me racontes. Et quand je suis allé voir ce film-là, j'ai été extrêmement surpris et j'ai trouvé que c'était juste intéressant de parler comme, enfin, de faire.
Moi, j'ai bien aimé le film, mais j'étais hyper ambivalent, quoi. Enfin, tiens, en gros, pourquoi j'aime le film, en fait? Qu'est-ce que. Et j'étais très content de voir que d'autres critiques ont défendu le film, parce qu'ils me disent, c'est pas seulement parce que je suis influencé, parce que c'est l'adaptation d'un bouquin de mon frère, ou je sais pas quoi. Et visiblement, le film a été soutenu par la critique, Voilà.
Il est bon parce qu'il y a à aucun moment le film se repose sur comment dire une technicité pour pouvoir faire peur. Non, il travaille sur l'effroi de manière plus classique, plus simple, à savoir un gars qui sait que dehors ça va pas. C'est-à-dire que nous, on sait que dehors ça va pas. Ouais. On le vit au jour le jour. Dehors ça ne va pas. Ouais. Donc comme ça va pas, on reste enfermé chez soi et on essaie de découvrir le monde à travers les médias. Alors que lui non. Le monde, il le découvre autrement. Il revient à la base, c'est-à-dire ouais. comment vivre. On va prendre des combats de concert, on va essayer enfin, c'est juste incroyable ce film.
Et par ailleurs, d'un point de vue artistique, il y a un truc hyper intéressant, c'est que Denis Crochet a fait appel. Alors, la chef-op, c'est la chef-op de Mercurial de Virginie Vernier. La personne qui s'est occupée des décors, c'est la personne qui s'est occupée des décors des rencontres d'après-midi.
Et ça sera mafia.
Ça se rejoint, putain, ouais. finalement. Ça et la monteuse, c'est la monteuse de. Comment il s'appelle le troisième qui a fait un documentaire là, en Russie avec deux familles qui se détestent.
Ah, Clément Cognetoré.
Voilà.
Donc il y a un groupe, comme tu disais tout à l'heure.
Il y a un groupe, c'est juste que Dominique Crochet, en fait, aime beaucoup. Parce que c'est Yann Gounès, Virginie Vernier et tout ça. Et donc il a essayé vraiment de prendre ces gens-là pour lui faire par contre quelque chose de hyper beaucoup plus différent, c'est de se rapprocher plus d'un cinéma beaucoup plus populaire, beaucoup plus.
Mais tu vois, quand tu regardes.
Mais c'est hyper.
Quand tu regardes. Que ce soit Mon Écho ou Mon Allège, je trouve que c'est aussi du cinéma populaire, même si c'est.
Ouais,
pas,
non, bien sûr, c'est un peu différent. Quoi.
Finalement, mais quand tu regardes Les Rencontres d'après minuit et le dernier film, Couteau dans le cœur, c'est quand même deux choses totalement différentes aussi. Et c'est juste assez. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde de prendre du recul. Il aurait pu continuer sur cette veine-là, très formaliste. Les Rencontres d'après-midi, c'est pas un film que j'adhère, donc je vais pas être forcément. Je vais être trop subjectif, donc pas forcément. Enfin voilà. Mais c'est ce que je remarque aujourd'hui dans ce qui s'est passé dans le cinéma français en 2018, qui a été. Ces films-là ont été engloutis. Par malheureusement ce qui fait honte au cinéma français, à savoir la comédie française. Et je crois qu'on est bien parti pour une année 2000, pour un 2019 assez.
C'est pas que ça, c'est-à-dire que c'est une vraie question, mais qui traverse toutes les cinématographies, même quand on parle de cinéma coréen. C'est-à-dire qu'il y a, en France, il y a 400 films, 500 films qui sont produits par an. Ouais. Il y en a pratiquement autant qui sortent en salle, 350, 400. On a finalement une vingtaine de films. Qu'on a aimé, peut-être 10 qu'on est prêt à défendre. Est-ce que ça suffit?
Je pense qu'il y en a plus. Je pense, Victor, qu'il y en a beaucoup plus.
Là, on a parlé de 6-7 films.
Parce que Victor, attends.
Peut-être un tout petit peu plus. Non.
Mais tu oublies une chose.
Mais par rapport à 500,
oui, tu vois. Tu le dis, la réponse est dans ce que tu viens de dire. Il y a une vingtaine de films qui sortent par semaine. Je crois que la semaine prochaine, on a 26 films. Ou c'était la semaine dernière, je ne sais plus, mais à un moment on va avoir 26.
Il y a 6-7 films français.
Comment veux-tu et comment tu vas passer à côté d'un film, voire de deux ou de trois, voire peut-être de trois très bons films. Tu vas passer à côté de ça. Je crois qu'on passe à côté de pas mal de choses qui sont. Mais on peut pas faire. C'est pas notre faute. On n'y peut rien. Je pense que nous-mêmes on fait suffisamment de. Moi non, mais je sais que vous faites suffisamment d'efforts pour en voir beaucoup. On passe à côté de pas mal de choses et on les rattrape plus tard. Mais c'est vrai que de plus en plus. D'année en année, ces films-là dont je parle, on leur donne même pas la chance d'exister. Même pas cette chance-là. C'est de plus en plus, hein. Ça devient de plus en plus compliqué. Tu verras, ça va être une secte à un moment. Ça va être une secte. Kechiche, il est Kechiche, parce qu'il y a eu César, il y a eu surtout la Palme d'Or. Mais la faute à Voltaire, il n'y a pas beaucoup de monde qui est allé voir la faute à Voltaire.
C'est compliqué, là, avec Make to My Love.
Voilà. Et encore, je crois que j'ai l'impression que...
C'est pas très bien parti. Hein,
plus les petits problèmes judiciaires.
Oui, mais ça, c'est à cause des problèmes judiciaires.
Non, c'est des problèmes de financement, que juste le film n'a pas marché, que ça coûte cher en post-production.
Non, mais il a déjà tourné le 2.
Oui, mais ça coûte cher en post-production. Make to My Love.
Parce que l'idée, c'était que le film soit pas divisé en deux parties.
Oui, mais voilà.
C'est ce que tu disais. Après, tu sais, on cause toujours du tort au plus grand cinéaste français vivant. Donc.
Ouais, moi je suis pas sûr qu'on voit Make to My Love partie 2, on verra peut-être que l'année prochaine.
Peut-être
à 15. Ah non, on attend 2019, merde. Non, quand même.
Bah ouais, mais je suis assez.
Mais peut-être à Cannes, il sera là. Peut-être.
Mais niveau comédie, déjà s'il ne peut pas faire sa post-prod.
J'ai pas. Ah. Moi j'adorais Salvadori, là, le Salvadori, je le trouvais extraordinaire. Et en même temps. Alors je te laisse, vas-y Justin. Vas-y.
Donc on parle de En Liberté de Pierre Salvadori.
De Pierre Salvadori, pardon.
Et vous êtes bien sur istadia.fr.
C'est pas .com.
Non.
Bah là c'est .com ce soir.
Non, le souci que j'ai, c'est en fait, moi j'adore Pierre Salvadori, j'adore pratiquement tous ses films. Et en fait, depuis le début, il a toujours été sous influence, tout ce qui est Billy Wilder, Lubitsch, enfin, une espèce d'école américaine de comédie. Et là, dans le dernier, il l'est plus que les autres parce qu'il veut rajouter un côté gag plus prononcé, un côté. Alors, le souci que j'ai, moi, c'est quand tu regardes un Wilder, un Lubitsch. Le moindre gag, le moindre dialogue, la moindre caractérisation de personnage qu'on peut avoir, c'était des maniaques du scénario, il n'y avait rien qui était laissé au hasard. Ils y réfléchissaient assez longtemps pour la caractérisation d'un personnage, tout ce qu'on veut. Sauf que, quand on regardait le film, ça, on l'oubliait complètement. On ne le sentait pas. On regarde, et puis ça se déroulait naturellement, Wilder, Lubitsch, là, tu mets ça à n'importe qui, même à un gamin, à un ado, pour peu qu'il soit un peu curieux, tu mets la mécanique, elle est limpide, ça passe tout seul. Problème avec En Liberté, hein, pas en général, Salvadori, c'est que ça, il le réussit peut-être les 30-40 premières minutes, et après, toute la mécanique, l'écriture, tu la sens, c'est le problème. On sent ça dès que ça coule pas, ça, naturellement, ça, comme quand on regarde un Wilder ou un Lubitsch ou Preston Sturges, tous ces réalisateurs. Ça coule pas. On sent qu'il a voulu placer le bon mot là, le bon gag là, c'est pas naturel.
Tous les films de Lubitsch, Wilder, Sturges ne coulaient pas non plus.
Hein. Oui, bah là, il veut faire des sous-influences. Oui, mais dans ses plus.
Tu dis 40 minutes, j'ai envie de te dire, c'est génial.
Je pense que je m'avance quand je dis 40 minutes, c'est plus 25-30.
40 minutes, c'est génial. Aujourd'hui, 40 minutes de comédie pure sur 1h30, c'est bien.
Ouais, je pense que j'exagère, mais quand je dis 40 minutes, c'est sans doute moins.
C'est
ouais, je pense que c'est les 25 premières minutes où il le tient magnifiquement.
Et le reste, c'est
assez laborieux après. Voilà, il y a des sursauts, mais c'est quand même assez laborieux. Ça coule pas.
Mais c'est laborieux parce que ça va trop vite dès le début.
Non, c'est pas le souci.
Le rythme est assez frénétique et puis à un moment, ça se pose.
Et ça devient sérieux.
Ah oui,
c'est pas que ça se pose, le problème c'est que.
C'est moins bien géré, certainement.
Après, peut-être que j'ai envie de te dire, j'ai envie de vous dire, pardon, Justin, que c'est pas un très bon argument, là, ce que je sors. Mais on a tellement de mauvaises comédies que lorsque je me sens face à une comédie qui démarre de manière...
Je comprends.
La grande campagne de Wilder n'est pas si extraordinaire. Wilder n'a pas fait. Enfin, je veux dire, il y a des grands cinéastes qui ont fait. Il y a des films.
Oui, mais il assume de s'inspirer de ça. Moi, j'ai cette attente-là. Moi, je vais pas me dire, les autres, ils sont mauvais. C'est pas grave s'il est un peu moins bon.
Non,
tu me parles de Wilder, tu me parles de Lubitsch, tu parles de ça.
Non, parce que là, il est explicitement. Dans ses films d'avant, c'est une influence latente.
Je n'attends pas d'un film qui soit parfait à 100%.
J'ai pas dit parfait.
Qui soit rythmé à 100%.
Oui, mais c'est pas réussi. C'est juste pas réussi. Complètement.
Mais c'est vrai, oui, le film n'est pas totalement réussi, certes. Mais
et je sens l'écriture. Et puis je sens. Ça se sent. Je regarde certains Lame Show, pourtant l'histoire n'est pas si folle que ça.
Non, mais tu parles quand même de Wilder et Lubitsch.
Tu as lu la presse là quand il est sorti là, ouais, ça s'est enflammé quand même.
Je trouve ça dommage.
Quand tu vas en scène.
Effectivement, parce qu'on a une bonne comédie française.
C'est mort quoi, c'est mort.
Là, il a fait mieux avant.
Oui, mais je veux dire,
j'adore Salvadori.
Si tu commences à le comparer à des grands, c'est mort, on ne peut plus débattre.
Non, mais comparé avec
encore que certains Lame Show n'est pas extraordinaire non plus.
Ah, bah moi je trouve que c'est.
Voilà. Après, voilà, on est dans la subjectivité, mon gars. Donc je veux dire, comment veux-tu que je
puisse parler d'un même s'il y a des belles fulgurances, c'est pas parce que la comédie française est nulle en général que si je tombe sur une qui est un peu mieux mais qui n'est pas complètement aboutie, c'est pas pour ça que je vais l'encenser.
Tu as raison. Tu as raison, mais c'est parce que j'ai tellement fond de comédie française que je me dis que c'est 30 voire 40 minutes. Je finis deux petites secondes. Je suis pas, je sens qu'il y a des moments d'essoufflement dans le rythme et je pense que lui-même le sent aussi. Mais j'ai toujours aimé la manière comment il allait travailler le corps en tant qu'aspect, enfin en tant que mise en scène. De comédie, et je trouve qu'avec Pio Marmaille par exemple, il a trouvé quelque chose avec Pio Marmaille, c'est juste génial. quand il demande à Pio Marmal d'enfiler ce costume en latex, c'est un moment comique.
Oui, oui. Et on est vers la fin du film.
Voilà.
Enfin, et il y a des c'est des surchauds.
Après, le film, c'est des vagues. Il y a des moments.
Il y a des fulgurances.
Et je suis d'accord avec toi, surtout, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en demande beaucoup trop à la comédie française. Et parfois.
En plus, sans remonter. Éventuellement, sans remonter à Wilder Lubitsch. Juste, on remonte 20-30 ans, Philippe de Broca, Jean-Paul Raffneau, Yves Robert.
Qui n'ont pas fait des films.
Oui, mais tu parles des meilleurs, là, c'est les successeurs. Donc, si je compare.
Mais ils ne tenaient pas non plus leur après, film après, sur la longueur, forcément.
Voilà, Raffneau, ça se tient alors, plus qu'En Liberté. Hein.
Parce que, oui, mais Raffneau, il a fait.
N'importe quel Raffneau.
Non, puis il y a autre chose avec En Liberté, c'est qu'on retrouve l'univers de Salvadori. Enfin, toi, tu dis que t'aimes bien tous ces films, mais qu'on avait quand même un peu perdu depuis une dizaine, quinzaine, voire une vingtaine d'années. Enfin, Les Apprentis, ça reste.
Apo, c'est plus vidolesque que Salvadori. Salvadori depuis... travaille beaucoup sur le verbe. Salvadori travaille beaucoup plus sur le verbe et un peu sur le burlesque.
Rapno... il y a du visuel aussi. Dans il cherche le gag visuel.
Oui, mais Rapno, c'est beaucoup plus prononcé le gag. La vie de château, qui est pour moi son chef-d'œuvre, je trouve ce film juste. Je crois qu'il n'a pas pris une vie. Je pense qu'il faut le montrer dans une. Qu'est-ce que la comédie française? La vie de château. C'est juste.
Et pour le coup, là, on parlait du beat.
Mais la vie de château, c'est. Et puis, rappelons, il n'a pas fait 15 000 films, il a fait quelques films. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup. Il a mis du temps à travailler sur le rythme. Bah, oui, tu vois mais c'est deux manières de travailler la comédie qui est différente. Par contre, tu me dis Lubitsch, je dis oui. On adorait Lubitsch, c'est vrai que ça se rejoint.
Non, mais parce que tu me reprochais de creuser chez les grands.
Non, je te reproche pas.
Je te dis que...
Non, je te reprochais.
Sans aller chercher les
cadeaux. Je te reproche rien, mais autant moi, c'est un peu trop facile, voire même peut-être... c'est un manque de respect de te dire oui, mais la comédie française est tellement mauvaise que... C'est pas bon. Mais si en plus, tu me cites des cinéastes américains qui d'une autre période où ils avaient un rythme qui était différent, un jeu d'acteur qui était aussi différent, parce que même si Gary Cooper est génial, il n'a pas l'élasticité de Pio Marmaille. Tu vois ce que je veux dire
c'est pour ça que j'allais chercher moins loin, en France.
N'allons pas chercher trop
le
loin.
Le Grand Blond,
on a des choses à très bien, le Grand Blond. J'adore. Bravo.
Là, on peut discuter. Ça se tient beaucoup mieux.
Mais tu vois, de parler de Lubitsch, tout ça, j'ai l'impression.
C'est lui qui s'en réclame. C'est pas moi qui. C'est lui, c'est Salvadori qui les cite. C'est pas moi.
Alors, je m'en fous.
Pour élargir un peu le sujet.
C'est pas grave.
C'est lui qui les cite. C'est pas moi qui. Mais j'invente pas.
Moi, son interview, oui, Justin. Ce qui m'intéresse, c'est pas Salvadori, c'est ce que toi, tu
fais.
Oui, mais bon.
Peut-être pour élargir un peu le sujet, j'ai pas l'impression, comme on parlait de comédie aussi et de grands classiques américains de la comédie, qu'on ait eu de grandes comédies en 2018. Comme ça, moi, j'ai même pas l'impression qu'il y ait eu de bons films américains en termes comiques. Et je vois autour du silence, autour de cette table, qu'on a du mal à trouver quelque chose qui puisse nous faire rêver comme
ah
ça.
Ah si, ouais. Peut-être le prochain Sherlock Holmes avec...
Le film le plus comique...
le film de Farquhar
non. Non, le prochain Sherlock Holmes avec
Will Ferrell
et John C. Reilly.
Non mais le film comique c'était le Lars von Trier.
Oui, bah c'est vrai.
Voilà la dernière transition qu'on peut avoir pour cette
série.
Et c'est vrai qu'il y a des... Il y a des scènes
très noires, mais
qui sont extrêmement drôles.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais on rigole au moins 30 minutes.
J'ai pas rigolé, mais je crois
au début, je me rappelle, on était mort de rire.
Oui, on était mort de rire quand il a ses troubles compulsifs et il revient nettoyer.
Donc c'est l'acte 2 pour le chapitre 2 du film.
Pas le meurtre de Matterman, mais après quand il va chez la meuf.
C'est l'acte 2.
C'est l'acte 2,
ouais.
C'est super drôle.
Un peu plus.
Il revient 15 minutes. Il revient 15 000 fois dans la maison, il arrange les cadres et tout, c'est super drôle.
Alors, du coup, il y a deux discussions identiques pour remettre ce chapitre 2.
Quand
tu es
gamin, quoi, c'est super drôle, je veux dire. On se gourse. Non,
shotgun.
Non, aussi, après, c'est un humour très noir, mais.
C'est un humour très décalé.
Mais on a.
Non, mais Lars von Trier, ça se sent qu'il rigole quand même. Attends, il parodie le clip de Bob Dylan avec les affiches.
Oui. C'est un troll, ça, en même temps, on le sait.
Et même, il te fait. Ouais, on parle des nazis, mais. Comment il s'appelle?
Il met des trucs d'Adolf Hitler dans son truc.
Non, il dit. Goethe a écrit blablabla en dessous de l'arbre où il y a eu le truc de nazis et tout. Donc voilà, c'est tout est lié. Et c'est assez marrant, en fait.
C'est marrant de voir la couverture de Mein Kampf.
Non, mais c'est marrant la place que Lars von Trier est conscient de la place qu'il occupe et de justement ce qu'on lui reproche.
Bah, il est pas trop. En même temps, si.
Parce qu'on lui reproche.
Il faut être un peu concon en fait pour pas avoir.
Non, de ce qu'on lui a reproché à l'époque et de ce qu'il a blessé en fait pour de vrai en tant que cinéaste. Et justement, il revient et il se moque de ça et il en rajoute en plus. Mais il est assez intelligent pour proposer autre chose en même temps.
C'est ça, je pense qu'en même temps, il fait un vrai film, parce que sinon, on n'adhérait pas forcément à son discours méta et juste, à ses délires et à ses règlements de compte, qui sont très amusants, pour le coup. Enfin, ça peut faire rire, mais le film n'est pas que ça. C'est aussi un vrai film de genre qui marche bien en tant que
film Jack, de Portrait of a
Serial Killer, en gros, en étant moins bis que le film des années 90. De Matt Norton, ouais, mais peut-être plus intéressant et en même temps qui marche sur une vraie réflexion sur l'art, sur ses limites, sur ce qu'on peut apporter au premier degré et au second degré, quoi.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui joue toujours sur les deux tableaux et aussi pour comparer à Godard, c'est son travail sur le montage aussi, parce qu'il y a un gros travail sur le montage de en train de mettre en juxtaposition des images qui provoque des réactions, etc. Comme, en fait, c'est pratiquement ce que Godard fait depuis...
c'est vrai.
Depuis Godard qu'il est passé à la 3D, enfin depuis...
Non, longtemps.
Radio Langage
depuis
et...
Depuis qu'il est passé à la 3D.
Ouais, mais même avant, si tu regardes...
Même depuis les années 90, en fait, c'est que du travail de montage.
Même si tu regardes la chinoise, il y a déjà des montages de bandes dessinées, d'éléments comme ça, et qui peuvent se rapprocher aux images de l'art
de
Trier.
De mettre en scène quelque chose, mais... maintenant, Godard, c'est du pur montage. Et Lars von Trier, il fait des parties où c'est du pur montage. C'est-à-dire, il monte ses propres films, il monte des images, etc. Et c'est ça qui est intéressant, que même à ce niveau de maîtrise formelle, c'est-à-dire ce qu'il a montré dans Nymphomaniac et Mélancolia, c'est-à-dire, il revient quand même à ce niveau... Justement, comme si c'était son premier film, en fait. Et il tente des trucs au montage et formellement. Et
ça, alors, peut-être dernière question pour sur le cinéma de genre, puisqu'on peut élargir le film de Lars von Trier au cinéma de genre.
Non, c'est
est-ce que, contrairement à la cinéma de genre, j'insiste
de genre,
là-dessus, de genre, des films horrifiques, quoi, si vous voulez. est-ce que ce sont des privés de Joker, en même temps, de films d'horreur est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des films intéressants cette année? On a eu du mal à trouver des comédies. Donc on peut dire que le Lars von Trier est un bon film d'horreur, finalement, aussi.
Film d'horreur, oui.
Certains pourraient citer Hérédité. Et
non,
voir,
Hérédité, c'est nul, c'est pourri.
Voir une série dans les... Ah.
Dans un bruit, c'est pourri, c'est nul aussi.
The Haunting of Hill House, qui pourrait être un événement marquant de l'année. Après, à part ces deux éléments, où est-ce qu'on peut discuter de ces deux éléments?
On peut parler des Indonésiens aussi.
Moi, du coup, c'est pas tellement sûr.
Ton pote, Pascal Laugier.
Oui, Pascal Laugier.
Du coup, on va y revenir sur le cinéma.
Attendez, il a qui parle, arrêtez de
le... Il a aussi...
Le Miles Plané, là.
Apparemment, je te ferai.
Bah, en fait, c'est pas tellement sur cette année 2018, c'est encore sur ce début d'année 2019. Moi, j'ai l'impression d'avoir passé... Alors, j'ai raté beaucoup de films en 2018. Mais j'ai l'impression d'avoir passé une année à attendre des films qui finalement sont arrivés sur ce mois de janvier 2019.
L'heure de la sortie.
Exactement. Voilà. Revenir. Alors, on va pas trop spoiler. On va pas spoiler du tout, Elvire, t'inquiète pas.
Merci.
Mais oui, justement pour rester un peu sur le cinéma français, qui est un film qui a ses défauts. Hein. Je trouve que certains personnages sont un petit peu trop forcés, etc. Mais voilà, on a un vrai thriller qui emprunte au film de genre et qui en fait voilà, c'est un film qui quelque part est très subjectif, qui rentre vraiment dans la tête de son personnage principal et qui va montrer un petit peu cet accroissement de sa paranoïa. Voilà, c'est un professeur de lycée qui en fait commence à se dire qu'il a des élèves qui sont bizarres, qui préparent quelque chose et qui petit à petit sombre dans la paranoïa. Et voilà, et ça c'est montré en empruntant au cours de genre, en commençant à déformer un petit peu la réalité du film. Bon, je vais pas aller plus loin parce qu'effectivement ce serait un petit peu trop. Voilà, elle vient, je m'arrête ici. Mais il y a cette porosité en fait entre un thriller classique tant son intrigue, mais qui par sa mise en scène emprunte un petit peu à l'horreur, au fantastique,
oui, parce qu'il y a une filiation, on peut penser au Village des damnés, l'original.
Tout
à fait, tout à fait. Mm-hmm. Et
Carpenter.
Assez surprenant de voir ça en France, c'est assez surprenant de voir ça avec Carpentier. Laurent Lafitte en rôle principal, parce que c'est vrai que c'est pas forcément quelqu'un qu'on imagine dans des rôles comme ça. Et
Laurent Lafitte de la comédie française.
Il a fait des films dans lesquels il jouait des rôles. Beau Sanchez et Revenu.
Voilà. Depuis quelques années, en fait,
Tristesse Club, tout ça.
C'était vachement bien Tristesse Club.
Mais dans ce rôle-là, on l'attendait pas.
C'est un bon film.
Il y a vraiment un tournant quelque part dans sa carrière, parce qu'au début, on l'identifiait plutôt dans les rôles un peu comiques.
Il a joué Louis XVI aussi cette année.
C'est un peu le Michel Leb des années 2010.
Il lui ressemble.
Il y a aussi un tournant vis-à-vis de sa carrière. Et
il en a un deuxième enfin, qui sera sorti au moment où les gens écoutent le podcast, mais il y en a un deuxième qui arrive. Oui, voilà, qui disait qu'il y a
aussi des petits bons mouchoirs.
Les grands mouchoirs.
Nous ne virons pas ensemble.
Non, la comédie française
avec l'Hirose Depp.
Ça, c'est pas. Mais par contre, Kéfren, j'aimerais bien savoir pourquoi cette détestation autour d'Hérédité.
Hérédité ?
Ce détestage.
Ouais. Ah, mais parce que c'est de la merde, je sais même pas.
C'est quoi,
attends, je sais même pas ce que vous trouvez bien dans ce film. Non, mais parce que, en fait, le.
Je trouve bien, mais.
Ce que j'aime pas, c'est que le réalisateur. Hérédité. T'as vu, Samir, il sait même pas de quoi je parle. La preuve que c'est de la merde.
Non, moi, c'est un mauvais exemple.
C'est un bon critère.
Tout le monde sait par Russell.
Je suis désolé, c'est quoi déjà Hérédité ?
C'est un film d'un jeune réalisateur. C'est son premier film qui s'appelle Ari Aster. Et c'est un espèce de film d'horreur polanskien. Et où le postulat de base, c'est qu'un frère tue sa sœur par accident. Et il s'ensuit des choses bizarres. Au sein d'une famille.
Qui possiblement se peut être lié à une malédiction qui pèse sur la famille.
Bon,
on ne dira pas forcément.
Et là,
c'est produit par la même personne qui a produit The Witch. Donc.
Oui, Witch qui était aussi de la merde.
Le renouveau
The Witch de la merde.
Non, The Witch était de la merde.
C'était un mauvais film d'horreur.
Ça a été présenté comme un des renouveaux du film d'horreur indépendant.
Le rapport entre les deux.
Et justement.
C'est un film fantastique.
Ce qui est raté, c'est justement c'est que il essaye un espèce d'habile mix entre Polanski et Kiyoshi Kurosawa, mais rien ne fonctionne. C'est-à-dire, on voit tout de manière tellement évidente que ça en devient ridicule. C'est-à-dire, là où t'es censé sortir de l'effroi, de la peur, de l'angoisse, du malaise, tout est ridicule, tout est artificiel. Et...
Qu'est-ce que j'aurais pas aimé voir le film avec toi.
mais tout est complètement débile. C'est-à-dire, il y a une scène à un moment où le garçon se réveille parce qu'il commence à être dans des espèces de tripes, de délire et tout, et il se réveille et là tout a basculé et bon, je vais pas spoiler, mais il y a quelqu'un de proche de lui qui devient une sorte de démon, de monstre, enfin il le voit tel et il voit passer derrière lui sur le mur et il te montre comme ça, mais ça Kiyoshi Kurosawa il le fait depuis 20 ans et genre je dis ben il y a absolument rien d'intéressant dans sa mise en scène en fait, et c'est juste des choix de lumière numérique parce qu'il utilise justement des caméras numériques et je crois que c'est A24 les gens qui produisent, et justement cette boîte là ils ont tous une espèce de qualité minimum ultra léchée, c'est eux qui font aussi le dernier film, le film de Jonah Hill ou des films comme ça, et ils ont tous une esthétique hyper léchée, très numérique où les lumières sont jolies, l'étalonnage est super bien fait, et tout ça c'est un espèce d'écran dans le film qui montre la vacuité de la mise en scène qui est complètement débile. Et je parle même pas de la narration, c'est-à-dire, à la fin, le twist de fin, il est complètement ridicule. C'est un truc, genre, quand vous avez vu, genre, The Wicker Man, justement, le film croit qu'il
est... C'est des années 70.
C'est des années 70. Quand tu vois
cette... Avec Efren, c'est pas d'autres versions.
Non, c'est jamais...
Avec Efren.
Ou en même temps, Paranormal Activity 3, c'est la même chose.
Non, mais quand t'as vu, par exemple, Messiah of Evil ou The Wicker Man, genre, tu connais ce genre de film qui tend vers la folie à l'extrême. C'est-à-dire, à la fin, et on te donne juste une sorte de panorama de l'enfer, de genre, voilà, on est arrivé à là, mais... Le film croit qu'il fait ça, mais en fait, il le fait de manière tellement évidente, tellement débile, et il tombe dans tellement d'écueils, et la mise en scène est tellement criarde, et c'est tellement déjà vu que c'est juste un enchaînement d'espèces de clichés, et en plus, il croit qu'il est malin par son jeu de marionnette avec la mère qui construit des trucs et tout. C'est complètement débile, et la fin... Quand on a le twist final,
le twist est
complètement différent. Ouais. Et même dans le cinéma contemporain, qui a peur de ça en fait, d'une espèce de peur de wasp, de chrétien blanc, genre en mode de, ils se cachent ça dans les
volets. Ah diable, voilà, le racisme anti-blanc, voilà.
C'est complètement ridicule.
Tu as aimé le film ?
Non. Enfin, moi j'ai complètement marché dans le film, mais je pense pas que ça soit donc moi je comprends tout à fait
en fait je suis d'accord avec Kefren, mais en même temps je me dis que c'est super efficace et que ça,
oui, c'est ça, c'est efficace, c'est
quand t'as jamais vu de film de ta vie et que t'as pas une grande
je vais reprendre l'argument de Samir. En fait, toutes les merdes qu'on se paye en film d'horreur,
Samir
sur les comédies c'est pas un bon argument.
Non,
c'est pas parce que tout le reste est pourri.
Non, il se passe.
Non, c'est pas bon. Pas utilisé.
En fait, ça se veut plus intelligent que ça ne l'est.
Oui, ça, c'est par contre.
Mais ça reste efficace et ça reste bien filmé.
Oui,
ça reste,
mais par exemple, parce que le film.
On s'en contente en même temps aujourd'hui.
Non, l'aura du film, c'est comme si on nous dit le futur du cinéma d'horreur en mode le nouveau Polanski, c'est lui. Mais en fait, non, parce que. Il fait ce que faisait Polanski à l'époque.
C'est marketé comme ça. C'est marketé comme ça.
Non, et genre, par exemple, quand tu vois des films comme Unfriended, des trucs comme ça, ça, c'est l'horreur actuelle. C'est comment repenser l'horreur à l'époque. Unfriended.
Le 1 et le 2.
Et genre, quand tu vois ces films d'horreur, c'est comment penser l'horreur maintenant, à l'ère du numérique, du monde des images. Ça, c'est pertinent maintenant. Ce que fait Ari Aster...
Comme dirait Jérémy, c'est déjà Unfriended Dark Web, mais je suis d'accord.
Mais ce que fait Ari Aster avec ce film-là, c'est des choses que Polanski et plein de réels anglais ont déjà fait dans les années 60.
Mais ça se voit, de toute façon.
Et ils l'ont mieux fait que lui, c'est-à-dire quand lui, il vient... C'est de la merde en fait.
Personne
a osé lui dire qu'il a fait de la merde.
Non, mais il te le dit.
Non, parce qu'après lui, dans le deuxième post, il est venu, il a dit oui, j'ai vécu une histoire traumatique, c'est un peu mon histoire.
Non, mais il te le dit.
Et je suis dark.
Dès le premier plan, il te le dit. Il te le dit, je vais jouer à la poupée. Il te le dit.
Oui, mais c'est ce que les gens aiment. Ils croient que lui, il maîtrise tout et qu'il est en train de jouer avec les pieds en mode regardez, je vais vous montrer. Mais il maîtrise rien. C'est un espèce d'imbécile qui croit qu'il est ultra intelligent. Et juste parce que justement, il a ce vernis de genre d'être sombre, d'être réel dans sa noirceur, on croit que le film est réel dans la noirceur, mais c'est que de l'écran, du vernis, c'est complètement.
Et je pense qu'il le sait et quoi.
Et c'est comme The Witch, dans The Witch, il dit ouais, en fait, j'ai recréé toutes les conditions d'une famille.
C'est du pastiche, ça reste du pastiche. Siècle.
Et tu te dis, ok, et il fait, ouais, j'ai fait ça pour être réaliste. À la fin de The Witch, il y a des sorcières qui veulent se dire, pourquoi t'as fait ça alors? Pourquoi t'as fait comme si t'étais réaliste, juste pour qu'à la fin, tu aies des effets spéciaux de merde actuels? Pourquoi t'as fait ça?
Sur le fond, il a pas tort, je trouve.
Non, mais bien sûr qu'il a pas tort.
Je dis, garde ton esprit fantastique jusqu'à la fin, et là, l'effroi viendra, parce que justement, les gens assumeront. Peut-être que ça s'est passé, mais lui, il te le montre. Et pareil pour Ari Aster.
Après, c'est l'héritage de Blair Witch,
Non, parce que justement, eux, ils croient qu'ils font du Polanski, mais ils font Blair Witch. En fait, c'est ça leur problème.
Et Blair Witch n'avait pas ces ambitions-là. Aussi.
En fait, le problème, c'est qu'ils assument pas.
Blair Witch arrivait comme un petit
film. Voilà.
Victor a raison.
Oui, c'est ça.
D'ailleurs,
à la fin de Rosemary's Baby, tu vois pas le bébé.
Mais c'était prévu. Et c'était prévu, et ils ont fait cette fin, et ils l'ont filmé. C'était donc, il y avait cette fin.
C'est donc pour ça que tout le monde dit avoir vu la gueule.
Avec les gros yeux. Moi, je me souviens de ça. Je me souviens de ce
film. Mais moi, j'ai la film que j'ai vu, il n'y a pas le bébé à la fin.
Mais tu sais que ça existe.
Oui, peut-être que ça existe. Mais moi, c'est pas le film que j'ai vu.
Avec les yeux globuleux. Ça, je me souviens très bien. Oui. Donc, ça veut dire que, autant c'est... Polanski est ce qu'il est, mais il a aussi...
C'est pas moi, c'est
oui, mais ça. Après, je peux le dire, par exemple, à la fin du Locataire, tu sais pas si... À la fin de Répulsion, tu sais pas si c'est vraiment... C'est ce que je veux dire.
Oui.
Et ces réalisateurs, c'est leur premier film et ils assument déjà pas le fantastique, c'est-à-dire ils assument déjà pas ils assument déjà pas que le cinéma est un régime de croyance dans lequel il faut croire à 100%, c'est-à-dire t'es pas obligé de tout montrer. Et eux, à la fin, ils montrent tout.
Ils veulent intellectualiser en fait quelque chose qui ne nécessite pas d'intellectualiser.
C'est-à-dire, et justement, c'est là où je dis qu'ils échouent là-haut.
Pourquoi, selon toi, ils se sentent obligés de montrer? Est-ce que tu penses
parce qu'ils pètent plus haut que leur cul, tout simplement.
Est-ce que tu penses que ça vient d'eux-mêmes ou tu penses que... Parce que Polanski était extrêmement libre quand il faisait ses films.
Oui.
Est-ce que tu penses que eux-mêmes, ces cinéastes-là, n'ont pas forcément cette même liberté qu'avait Polanski? Je sais pas,
je pense qu'ils ont cette liberté parce que justement, le sujet dont on parlait à 24 leur donne les moyens, c'est-à-dire on donne les moyens cinéastes de reproduire les conditions de vie de quelqu'un qui vit au 16e siècle.
Donc ils n'ont pas confiance au spectateur.
Oui, c'est ce que déjà, je pense qu'en fait, leur éducation cinématographique du cinéma américain fait qu'ils n'ont pas assez confiance au spectateur.
Et ils se disent, je suis plus intelligent que le spectateur.
Voilà aussi, c'est sûr que je crois qu'ils sont plus intelligents que le spectateur.
Si tu ne penses pas en fait que on leur fait comprendre qu'à un moment donné dans le film, il faut montrer quelque chose.
Non, parce que justement, dans Hérédité, on te montre assez, c'est-à-dire, il y a de la violence graphique, il y a des trucs bizarres, il y a genre...
Oui, mais de montrer, d'avoir une explication visuelle.
Et pour revenir à la comparaison avec Unfriend et aux productions de Jason Blum, il n'y a pas cette obligation de montrer chez Jason Blum.
Voilà,
plus,
Jason Blum, lui...
des films
lui,
qui ont cartonné.
Lui, enfin, voilà, Jason Blum, lui, il a au moins compris ça.
Mais en fait, Jason Blum, il est très intelligent, il est plus intelligent que ses cinéastes.
Mais il est vraiment plus intelligent que ses cinéastes.
Il y a deux fins dans Get Out.
Mais donc, ça, c'est le choix du réalisateur.
Mais c'est ça qui est problématique. Il n'y a pas d'obligation. Ça rejoint, exactement. Mais c'est là où c'est intéressant ce que dit Enfin, Get Friends balance une question qui est intéressante. À savoir qu'il fut un temps où, effectivement, il y avait peut-être cette inconscience qui faisait qu'on va aller jusqu'au bout. On est des fous, on va aller jusqu'au bout. D'accord. Et quand tu vois Get Out, qui n'est pas. Qui est assez intéressant comme film, je veux dire, dans tout. Voilà, on ne pourra pas. Et tu apprends que la fin qu'on connaît n'est pas celle qui avait été à la base pensée. Et qui avait. C'était une autre fin.
Tu aurais été meilleur, d'ailleurs.
Et quand tu connais ce que c'est cette fin, tu dis mais c'est pas possible. Pourquoi il n'a pas été jusqu'au bout, à savoir que le gars, donc, se fait, en fait, emprisonner pour ce qu'il a fait. Parce que ça colle parfaitement à ce que vit aujourd'hui l'Amérique.
Mais oui.
Pourquoi il n'a pas jusqu'au bout? Donc ça n'est pas le producteur, ce qui est encore plus délicat.
Non, c'est pas...
Tu on peut même plus dire, ouais, mais c'est la faute du producteur. Tu connais l'histoire des producteurs, l'histoire, le cinéma. Non, c'est le réalisateur.
Mais justement, c'est parce qu'il y a un problème de croyance entre les réalisateurs eux-mêmes. Ils ont un problème de croyance en le cinéma.
Quand tu dis ça, c'est trop spirituel. Tu les
respectes. Non, mais c'est pas...
C'est encore plus simpliste que ça. C'est peut-être parce qu'ils ont... Parce que c'est comme tu l'as dit à un moment, tu as dit une éducation.
Ben oui, mais moi justement,
leur éducation à l'image, ils ne l'ont. Enfin, peut-être que la manière comment ils conçoivent l'image n'a aucun.
Et puis il y a une peur peut-être, ils n'ont pas confiance en
spectateur.
C'est
différent dans le cas d'Harry Folman et dans le cas de Jordan Peele. Hein.
Harry Folman.
Comment il s'appelle?
Ari Aster.
Ari Aster, ouais.
Les skins. Ari Folman, il a rien fait.
Il a fait le congrès.
C'est ça.
Il a
pas de sa faute.
Là, il m'a renvoyé un truc, je comprenais pas.
Flashback de Cannes 2013.
Mais par respect, j'ai rien dit, j'ai pas compris.
Ça aurait pu passer comme ça.
On n'a pas pu voir.
Oui, dans l'un, c'est... Du coup, c'est une croyance aux images qui fait qu'il se sent obligé de montrer pour faire un film de genre, dans le cas de... On va couper ça, je sais plus ce que je dis.
Non, mais justement.
Une croyance aux images, c'est-à-dire qu'il croit, il croit tellement à ses images. Non, il ne croit pas forcément ses images.
Dans le cas
mais
de...
Oui, mais le fait que justement il croit
il
pas.
Il croit tellement
images.
Qu'il croit.
Non, il croit pas.
Il croit pas assez en son récit. Et il se sent obligé de montrer, c'est ça en fait.
Voilà, il croit même pas assez au pouvoir du cinéma en fait. C'est ce que je veux dire.
Pardon, je vais utiliser un mot difficile, c'est un escroc.
Mais pour moi, c'est un escroc.
Mais pas dans le cas de Jordan Peele. Hein, du coup.
Mais Jordan Peele, c'est un escroc. Dans 5 ans, l'escroquerie, elle va exploser.
Non, mais Jordan Peele, pour moi, c'est différent. C'est un mec qui vient de la comédie, qui fait du film d'horreur. Et
non, mais il est très drôle, ce mec.
La structure
là,
des comédies
là,
comme
il est
ressource
là, quoi, son melon,
d'horreur.
Il est là,
en fait.
Il est comme ça.
Et à la fin, c'est pour ça que je pense
qu'il a plus rien à dire, ce gars-là.
Parce que Jordan Peele, le problème avec Guetta, c'est que...
Mais c'est pas une question de croyance aux images.
Non, mais le problème avec Guetta, c'est que, par exemple... Moi et j'ai un ami, moi par exemple, on a l'habitude de regarder ces sketchs qui voilà. fait sur comédie depuis des années. C'est-à-dire, quand on a vu Get Out, on voit les réactions dans Get Out, on était mort de rire. Mais les gens dans la salle n'étaient pas morts de rire parce qu'ils ne connaissent pas Jordan Peele. Eux, ils pensent que c'est un film d'horreur conventionnel. Mais nous, par exemple, quand on voit le mec arriver au chapeau de paille...
C'est quand même des codes de films d'horreur, quand même.
Oui, non, oui, mais justement, Jordan Peele, son humour dans...
Sauf la partie avec son pote.
Oui, oui. Non, non, mais Jordan Peele, justement, son humour sur la chaîne Comédie, c'est qu'il utilise parfaitement les codes de l'horreur avec, parce qu'il a une espèce de petit segment de 5 minutes où ils font des sketchs avec un autre comédien, ça s'appelle Key and Peele. Et justement, dans ces sketchs, il montre que justement, il maîtrise parfaitement tous les codes de l'horreur, de la comédie, etc.
Mais alors, pourquoi, selon toi, il ne va pas jusqu'au bout de son film?
Justement, parce que eux ils viennent de la comédie.
Quand il y a cette voiture de flic qui arrive, ça n'est pas réellement un flic, c'est quelqu'un d'autre. Pourquoi il va pas jusqu'au bout? Cette fin aurait été juste géniale.
Mais oui, mais moi je veux qu'il assume cette fin. Mais justement.
Mais selon toi, là vraiment je.
Mais selon moi, justement, ça vient de son passif de comique en fait. Parce que à la fin, parce que nous on l'a vu comme ça, justement, mon ami qui lui a été élevé au sketch de Jordan Peele, pour lui la fin elle est logique parce que c'est comme ça que se finit les sketchs de Jordan Peele, c'est genre. Ah ben finalement c'était juste
quoi, alors.
Ouais, c'était juste une grosse blague en fait, parce que son pote vient le
mais si ça avait été une grosse blague, ce qui aurait été une bonne vanne, c'est que le mec, alors qu'il est menacé de mort, il finit en prison. Vanne de l'année.
Mais oui, mais déjà le public
vanne de l'année.
Mais déjà le public ne comprenait pas déjà les vannes avant, donc il est obligé de finir sur en mode ah mais en fait c'est rigolo, c'est son pote.
Je pense qu'on aurait compris s'il avait gardé sa fin.
Mais non, par exemple, moi, il y a une scène dans
c'est le public à la base.
Il y a une scène dans Get Out où par exemple il rencontre le mec avec le chapeau de paille, là, celui qui est déjà lobotomisé machin, et il essaye de le check et le mec lui serre la main en même temps, ce qui fait que ils n'arrivent pas à se saluer. Mon pote était mort de rire. J'étais mort de rire. Parce que justement.
Avec les blancs et les noirs.
Ouais, voilà, c'est un truc qui arrive pour de vrai. C'est-à-dire, on est mort de rire pour ça parce que c'est une situation pour de vrai, genre. Quand tu sais pas si tu dois checker ou serrer la main. Et ça, c'est un truc. Ça, c'est un élément
commun. Quand un noir est lobotomisé, en fait, il devient un blanc.
Oui. Mais ça c'est un truc récurrent des sketchs de Jordan Peele, d'accord. En fait. Par exemple,
là, je relis autrement le film. Quand même.
Par exemple, ils ont fait un sketch où il y a une invasion d'aliens. Et par exemple, le seul moyen de savoir s'ils sont humains, si les gens sont humains ou pas, c'est leur réaction face à eux en tant que noirs. C'est-à-dire, il y a un moment, ils pointent leur fusil aux gens, ils disent « Ah, est-ce que vous êtes des humains ou des aliens ?» Et il fait « Ouais, mais je ne laisserai jamais ma fille se marier avec vous. » Il fait « Ah, c'est bon, c'est un humain. » Et des trucs comme ça. Et jusqu'à ce qu'une fille ait une réaction en mode « Ah, mais vous êtes super gentils, vous, les deux noirs. » Et là, il la tue, il dit « Ah, putain, c'était une alien. » Et en fait, c'était pas une alien et tout.
Alors,
et,
je crois qu'on va...
Et c'est comme ça que fonctionne le cinéma. Et c'est vachement genre différent, mais Ari Aster par exemple pour moi c'est un escroc dans le sens où on a
pas hérédité, donc on
oui
effectivement Get Out est un film anti-Obama que anti-Trump comme il a été vendu au départ en France par les critiques qui visiblement font un peu à la
main. Oui, parce qu'en plus c'est un racisme
mais parce que justement enfin le côté les zombies enfin les noirs qui sont un peu gentils. C'est une critique d'Obama plutôt, quoi. C'est assez.
Oui, c'est un racisme inversé, c'est une sorte de racisme détourné.
Et avec ces blancs riches qui votent démocrate,
de gauche.
Alors, voilà. On va conclure cette partie là-dessus et on va aller sur nos attentes pour 2019. On pouvons dire que nos attentes, une de nos attentes, c'est Us de Jordan Peele. Je pense que tout le monde est assez d'accord là-dessus.
C'est qui?
Et on va parler de nos autres attentes. Gaël, quels sont les films que tu attends?
Alors déjà c'est une série avant tout, la série de Kim Sung-hoon, voilà. Kingdom. C'est une série je crois entre guillemets moyenâgeuse, ouais. Mais avec des zombies.
Ouais.
Voilà.
Ça m'aurait dit quoi.
Moi je me souviens, j'avais vu j'avais vu Tunnel avec une présentation de Kim Sung
Tunnel,
c'est pas encore.
Oui, avec une présentation du réalisateur. Et il était très content d'annoncer qu'il allait tourner cette série pour Netflix. Et il avait dit aux spectateurs, attendez-vous à une série politique. Donc moi je dis...
Déjà voilà, que j'attends. Tunnel...
Il y a Donabé, donc on est content.
En plus, voilà. Donc voilà. Sinon, il y a Gemini d'Angli, avec Will Smith. Donc je sais que...
Waouh.
Je veux pas être...
C'est bien.
Angli, c'est bien.
Angli d'attaque, n'oublions jamais.
Visiblement, ça sort en 2019, donc je l'attends. Et là, il en parlait avec Efren du fait que...
ça parle de quoi, ce film? Vous avez une idée de...
La table ronde.
Ah oui, dans la table ronde de Spike Lee, il était dans la même promo que Ang Lee et Jim Jarmusch.
Et Jim Jarmusch, et voilà, je rebondis là-dessus, parce qu'il y a aussi le nouveau film, là, qui est pas hors Asie, de Jim Jarmusch, son film de zombies, qui s'appelle The Dead Don't Die. Voilà. Et alors... là, il y a la grande dispute des films de zombies, c'est les zombies qui courent et les zombies qui sont lents, qui sont les
zombies traditionnels. Mais les zombies qui courent sont désinfectés.
Oui, c'est ça. Ouais. Chez Jarmusch, à mon avis, mais avec...
Mais oui, non, mais c'est ça. Chez Jarmusch, plus zombies, moi, je pense que ça va être un film.
Non, ça, c'est, oui, ça, c'est, ça, c'est plutôt Spike Lee, ça, il marche en arrière. Ça,
C'est avant tout, ouais, c'est trois œuvres. Okay. Enfin, voilà, mais puis après, j'en ai un
pur, bon. Jim Jarmusch qui...
Et donc, le zombie, c'est du zombie.
J'en ai une centaine. Et par ailleurs, La Flore aussi.
Ah, bah oui, La Flore.
Ça, t'en as parlé.
Propagande.
Assez longtemps. Parce que ça, on a bien compris sur
La Flore, allez voir La Flore.
Je pense que ton frère a dû écrire le bouquin.
Kefren, quelles sont tes attentes pour cette année qui arrive, qui est déjà entamée d'ailleurs.
Moi, ce serait d'abord un Terrence Malick. Un Terrence Malick qui a été tourné il y a un moment là. Ouais, non, parce que c'est un Terrence Malick.
C'est une réédition en fait.
Il revient à du cinéma.
Oui, parce que Terrence Malick a dit après Sanctus Sanctorum qu'il revenait à son cinéma d'avant Tree of Life. En fait, un cinéma plus.
Narratif.
Ouais, c'est tellement une bonne nouvelle, je vais pleurer. Je suis tellement ému parce que tu vas me raconter. Là.
Et justement, il a fait un film avec Christian Bale déjà, et ça a déjà été tourné en fait.
C'était
et,
pas Christian Bale, c'est avec Fassbender, je crois, non?
Oui. Et justement, ce film m'intéresse. C'est un espèce de film qui se passe au 19e siècle.
On sait jamais, il y a des gens qui vont voir qu'il est encore vivant, d'autres.
Ah, Werner
Fassbender.
Et justement, ça m'intéresse. Et aussi la série de Nicolas Winding Refn qui m'intéresse beaucoup sur son espèce d'Odyssée à Hollywood.
Too Young.
C'est sur Amazon.
C'est sur Amazon. Ça veut dire que ce sera sur Internet.
Sur Prime Vidéo.
Voilà. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est le film de Sonocion avec Nicolas Cage.
Ah oui.
Qui a
Sonocion, Nicolas Cage.
Oui, tout à fait, j'ai bien entendu.
Donc ce mélange m'intéresse beaucoup. Et
rien que de les voir les deux sur la photo, déjà
c'est magnifique.
Moi ça me suffit.
Oui, et
c'est la photo de profil d'ailleurs, je pense. Oui, du podcast. Hein.
Oui, et justement, le Veracita Cool m'intéresse aussi avec Tilda Swinton, oui, en Colombie. Et parce que justement, je lui avais parlé il y a 2 ans. Et justement,
à qui?
À Pichat Pong, Veracita Cool.
D'accord.
Et je lui avais demandé justement que c'était. Je lui avais demandé. Qu'est-ce qu'il allait chercher en Amérique du Sud, vu que l'imaginaire thaïlandais était très similaire déjà à celui d'Amérique du Sud. Et il m'a juste dit qu'en fait, il voulait juste la même chose, mais qu'il ne pouvait plus le faire en Thaïlande. Et c'est juste ça.
Pour des raisons politiques.
Oui, il m'a dit oui pour politique, parce qu'il m'a dit la Thaïlande est trop instable politiquement, et lui, ses films sont toujours politiques de toute façon. Donc il a dit, il ne peut pas commencer un tournage, et à la fin... il se passe un coup d'état ou je sais pas quoi et on l'empêche de
mais ce qui est assez impressionnant c'est qu'il est assez jeune, je veux dire que mais à un moment ou à un autre ces grands cinéastes comme Kiarostami, comme des gens comme ça finissent par tourner ailleurs, tu vois, et mais eux ils vieillissent, enfin c'est inquiétant.
Et par ailleurs, il faut savoir que le gouvernement colombien en fait depuis quelques années est en train d'avoir une politique culturelle enfin assez importante et d'essayer d'attirer de plus en plus de tournages en Colombie. Notamment pour essayer de faire oublier toutes les histoires de cartels, drogue et genre de choses. Ouais.
Qui n'existent plus.
Non, ils sont plus là.
D'accord. Terminé.
Elvire, quelle est ton attente pour 2019?
Alors, non, mais en fait, vu que c'est une attente par personne...
C'est le Wang Shaoxue, c'est tout, qui est à Berlin.
Je vais faire une attente Asie, une attente hors Asie, pour de vrai.
j'ai respecté la consigne. Asie, je pense que ce sera le prochain Bong Joon-ho. Je sais absolument plus le titre ni comment le dire.
Parasite, oui.
Voilà, comme ça, bon, j'ai dit mon attente. Et en Asie, Ad Astra de James Gray.
Mmh. Alors, il faut absolument que tu me dises de quoi va parler ce film, c'est pas possible.
C'est James Gray dans l'espace.
C'est en fait un fils qui va à la recherche de son père qui a disparu lors d'une exploration spatiale en direction de Neptune.
Mais ça, c'est Interstellar, non ?
Oui, un peu, beaucoup.
Un peu. Non,
c'est Lost City of Z aussi.
Oui,
un peu. Il y a toujours des. Lost
City of Z, c'est dans l'espace.
Mais c'est pour ça aussi que j'attends Ad Astra.
Nicolas, voilà. Quelle est ton attente ?
On vient me la piquer.
Oui, en fait, tu voulais me la piquer au départ. Parce que je vais dire à tout le monde, ça fait 3 heures qu'on s'est mis d'accord sur les attentes. J'en ai
pas
d'autres.
Enfin, là, j'ai pas de film qui vient en tête.
Mais t'en avais tout à l'heure.
Tarantino, il y a déjà quelqu'un qui veut le prendre aussi. Mais oui, j'attends Tarantino.
Le Carlos Regadas, dis pas.
Non, certainement pas.
Ah, ok.
C'est dur, Carlos Regadas, quand même.
Ah oui, le film, le prochain film de Fukada, tiens, voilà.
Ah oui, l'homme de la mer.
On en a parlé, qui sort en avril.
Oui.
En France.
J'ai pas Carlos Regadas, t'es sûr?
Ouais, alors moi, j'ai bien envie de voir le Irishman de Scorsese qui.
Moi, ça fait peur.
Un film sur Netflix. Qu'on n'a pas évoqué du tout ce soir, c'est un.
Qui serait sur Netflix courant 2019.
Et un peu surfé Scorsese, faut dire ce qu'il est aussi. C'est, on n'a pas voulu.
Mais c'est peut-être le son dernier là. Donc,
Oh là, dès qu'on parlait dans
le trailer.
Et mon petit cœur a envie de voir.
Détective Pikachu, non ?
Dragon froid.
Ah ouais,
normalement.
Personne t'écoute en fait.
Donc moi je le dis parce que bon, personne m'écoute, mais.
Moi j'écoute.
Dragon 3, j'ai envie de voir Dragon 3.
Alors,
Toy Story 4, Toy
Story 4. C'est pas toi qui as envie de regarder Dragon 3.
Ah non, c'est moi qui
ai envie de regarder.
C'est quoi c'est assez étonnant.
Parce que c'est un quoi c'est que ça
Tu l'as déjà vu, toi.
C'est des plus. C'est un animé les plus intéressants de ces dernières années.
Ouais, voilà. Et enfin, voilà. Il propose encore autre chose.
Christian,
il
est
beaucoup plus contemplatif.
Alors, écoute.
C'est magnifique, visuellement.
C'est moi qui me brosse ma barbe en bois avec une
brosse. Bon, un peu de calme.
Dragon 2, c'est bien aussi.
Samir.
Pourquoi es-tu si stoïque?
Oui,
tout à fait.
Samir, ton attente.
Bah, moi, c'est super. C'est très, très simple. Il y a trois choses. Enfin, deux films et une série télé. Alors, moi, j'attends toujours avec impatience le dernier des Pléchins et le dernier Kichiche.
Donc, Desplechin qui sort.
Alors, le dernier Desplechin est assez particulier parce que, bon, ça se passe une fois de plus à Roubaix, mais le personnage principal est joué par Roche Dizem. Et comment dire.
Ah, ça, c'est un très grand glissement.
C'est vraiment de la science-fiction pour moi. Je t'explique pourquoi. Parce que dans son, dernier film, il avait donné une interview, Desplechin. Je sais pas si vous vous souvenez un peu son dernier film, à un moment, il y a le personnage principal. C'est le dernier ou c'est l'avant-dernier, je sais plus.
Trois souvenirs de ma jeunesse,
c'est
l'avant-dernier. Pardon, excusez-moi, c'est Trois souvenirs de ma jeunesse, où à un moment, le personnage. Oui, c'est l'avant-dernier. À un moment, le personnage principal va acheter de la drogue et tout, donc il va chez un dealer et tout. Un dealer d'origine arabe. Et Desplechin avait donné un entretien, je crois que c'était dans Society, je pense, je ne sais plus, où il parle de ça. Mais c'est très intéressant ce que disait Desplechin là-dessus. Il disait que il assumait le fait qu'il avait du mal à faire entrer dans ses films des personnages qui étaient d'origine étrangère. Qui était français, mais d'origine étrangère. Il avait beaucoup de mal. Il ne comprenait pas pour quelle raison. Et ça le travaillait beaucoup. C'est ce qu'il disait exactement. Et c'était passionnant. Il disait, par exemple, ce personnage du dealer, je sens qu'il a envie de rentrer dans mon film. Et je fais, mais pourquoi je n'y arrive pas? Et donc, je me dis, à ce moment-là, il y a Roubaix, il y a Roche Dizem. Je ne dis pas que Roche Dizem, le catalogue français d'origine étrangère, mais je ne sais pas ce qu'il va... Voilà, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a un truc qui fait que... Donc, voilà. Mais Desplechin, pour moi, c'est toujours une attente. Parce que je le considère, avec Kechiche, comme les deux cinéastes les plus intéressants au niveau du cinéma français. Kechiche, j'ai adoré le Mektoub. Je trouve que... je trouve que c'est un cinéaste qui est arrivé à un tel sommet de son art qu'il ne peut que prendre du recul et continuer de se renouveler. et il le fait de manière très classique, ce qui est pour moi très intéressant et en même temps très dur au cinéma. Et la troisième attente, je me suis laissé embrigander là-dedans, mais j'attends avec impatience la dernière saison de Game of Thrones. Voilà, je suis désolé.
Vendu.
Je le dis, voilà, je suis un vendu, je suis une merde.
Vendu,
je suis une merde, mais je veux savoir si. Voilà.
Mais tu l'attends vraiment ou tu vas la regarder juste
sans ironie, sans ironie, sans ironie, sans.
Non, ça va être bien.
En fait, c'est une série qui parfois.
Ça peut envoyer du steak. Hein.
Comme dit HBO, ça va être 6 films d'une heure et demie.
Écoute, 6 films. Parfois, on parle de cinéma, on parle beaucoup de. Il y a beaucoup de cinéastes, beaucoup d'écrivains de cinéma quand ils parlent de cinéma. Ils aiment beaucoup parler de filiation, de transmission et tout. Je trouve que Games of Thrones.
Ah, bah, beaucoup d'histoires de filiation.
De Games of Thrones de manière très subjective. Qui peut parfois réconcilier les pères avec leurs fils. Donc, je l'attends avec impatience.
Il est pas petit,
ton fils. Juste un.
Donc mon attente, j'ai une grosse attente, c'est donc il était une fois
il
n'y
a
Hollywood,
pas d'âge pour regarder Game of Thrones.
Justin.
Oui, donc j'ai une grosse attente, c'est le prochain Tarantino. Il était une fois à Hollywood, donc qui sera apparemment une histoire de. Il annonce revenir un peu à sa veine de Pulp Fiction avec une histoire qui se déroule à Hollywood en 1969 avec en toile de fond l'assassinat de Sharon Tate. Donc je suis curieux de voir ça.
Est-ce que Polanski va faire un caméo comme dans
Rush Hour? Je crois qu'ils ont casté, mais ils ont casté un Polanski jeune.
Un jeune Polanski, hein. Ouais. De toute façon, obligatoirement.
Ah, intéressant.
Donc ouais, je suis curieux de voir ça. Et puis même, hors du film, le retour un peu médiatique de Tarantino après qu'il ait eu quelques soucis avec Me Too, ça peut être intéressant un peu.
Il a des soucis avec Me Too?
Ah bon?
Non, pas.
La Tourman et
il a pseudo défendu aussi un peu.
Non,
on l'a accusé de l'avoir rien fait.
Non, mais c'est ça, on allait plus. C'est juste, il était courant de choses qu'il a pas dit.
Même il était au courant.
En même temps, il a été produit par Weinstein pendant X années. Donc,
Weinstein a fait sa carrière.
Ça peut être intéressant de voir comment
il.
Plus, il y a eu un retour de bâton.
Voilà, exactement.
C'est-à-dire, Miramax, ils ont fait la carrière de Tarantino et Rodriguez. C'est-à-dire, ils leur doivent
donc
tout.
Voilà, sinon, j'ai appris apparemment tout à l'heure qu'il y aura un prochain Makoto Shinkai en 2019. Donc, grosse attente aussi. voilà.
Encore du shonen.
Non, ça change le coup de bâton.
C'est une private joke, ne le promenez pas au premier degré que vous écoutez ce podcast. Lila.
Alors écoutez, pour ma part, j'attends beaucoup le film d'Ariane Dombasle qui sort à la fin du mois.
Bravo, c'est génial.
C'est du happening.
Ouais, mais sérieusement, Lila.
Non, mais sérieusement.
C'est qu'elle l'attend et qu'elle va l'aimer.
Non, il y a peu de chance que j'aime ce film.
Tu n'as pas vu la bande-annonce.
Si, je l'ai vu, hélas. Il y a peu de chance que ce soit un film qui flatte mon sens critique.
Ton sens critique.
Mais je suis sûre que ce sera un film intéressant.
Je te donne 10 euros, tu vas pas le voir. 10 euros, je te le donne.
On a déjà une projection groupée. Hein, de...
Ah bon, c'est pire que la culte dans les années 90.
Bah oui, on voit pas que les filles japonaises, on voit des narines.
Ah bon, c'est bon. Dites-moi, là, je viens avec vous.
On va se caler ça. On invite même les lecteurs.
Voilà. Sinon, je sais plus. Pas où en est ce projet.
Oh, tu peux t'arrêter là.
Non, c'est vrai.
Non, vas-y.
Je sais pas trop où en est ce projet, s'il est censé sortir en 2019 ou pas, parce que j'ai l'impression que ça prend un certain temps. Mais je suis toujours en attente de l'adaptation de Dune par Denis
Villeneuve. Ils vont le tourner cette année, donc il ne
sera pas 2019, ce sera
2020. Dans 2 ans peut-être.
Moi aussi, je suis en attente du tournage, c'est déjà ça.
Début tournage au mois de mai ou. Depuis tournage
moins. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase de Kifan?
Je n'ai pas entendu le tournage.
Bah, depuis Blade Runner, on attend quand même.
Mais oui. Des films de...
Et Victor, quelles sont tes attentes?
Alors, quant à moi, j'ai deux attentes qui sont toujours les mêmes depuis l'année dernière. Le livre d'images de Jean-Luc Godard.
Il va sortir
éventuellement arrivé sur une plateforme légale, illégale, certainement en VOD.
Et le dernier épisode des Chevaliers du Zodiac.
Et alors, pas des Chevaliers du Zodiac, mais ma deuxième attente, c'est aussi un film américain. Si vous pensez que Deadpool est un anti-héros, attendez de voir le Spawn de Tom McFarlane, produit par Jason Blum, qui arrive en février et qui, à mon avis, va changer quelques perceptions autour de ce que peut être. Je crois que c'est très bientôt. Hein.
Sérieux, déjà
j'espère.
Ils n'ont même pas commencé la promo.
Au cinéma.
C'est un film live.
C'est un super-héros. C'est un film live.
Spawn.
Il y en a. Spawn.
Qui est-ce qui joue Spawn?
Ça fait 10 ans que Tom McFarlane.
90,
Moi je dis ça vaudra pas l'ancienne version.
Ouais,
avec Michael J. White,
la version,
la version de 96-97. C'est un peu de la merde. On peut complètement.
J'ai vu ça
un peu beaucoup.
Parce que ça, c'est pas possible. T'as donné de l'argent pour ce film-là?
Non, mais t'as pas compris l'ironie, là.
Non, mais j'ai compris. Et je sais pas que des gens se souvenaient d'ailleurs du Spawn de.
Nous on s'en souvient, monsieur.
Marit, on s'en souvient.
John Leguizamo en clown dégueulasse, là.
Ah, lui, bah, moi, c'est
le violateur.
Moi, je me souviens de tous les plus grands films des années 90.
Pour donc voilà, en tout cas, je sais pas si c'est février, c'était annoncé en février il y a quelques
temps. Mais... En tout cas, ça sort pas en février.
Mais c'est étonnant, monsieur Victor Lopez, que vous n'attendiez pas Phoenix.
X-Men.
Ouais, non, Phoenix.
Ça a été repoussé celui-là.
De Simon Kingsberg.
Ouais.
Non, j'attends pas. Non, bah,
c'est Kingsberg.
Ah ouais. Non, non, non.
C'est pas un film, c'est bientôt.
Là, on a eu la saison du diable cette année, dont on n'a pas, malheureusement pas.
Pourtant, j'ai vu ça là, l'approche aux presse, tel un héros, écouter ces gens qui chantent faux la révolution.
Et qui dure 17 heures.
Non, il dure 4 heures.
C'est minimum.
Ouais, mais du coup, tout le monde dormait à part moi, là. Je dénonce.
Pareil pour un Elephant Sitting Still. Ah, voilà, je balance aussi.
Nous, Istasia, on est sérieux, on dort pas pendant
une prochaine fois. On va apprendre que la fleur est sortie.
Donc là, c'est le bêtisier. Là, on est dans le bêtisier, là.
Je sais pas où on est, mais il y a personne qui nous écoute, là.
Ma mère, elle écoute. En tout cas, écoute.
Merci, madame.
Nous, au moins, quand on va au projet, on ne dort pas, ok.
Très bien, rendez-vous en 2019 pour de nouvelles aventures.
Pas comme les gens de Libération.
See you, Space Cowboys.
Bravo, bravo, bravo.